Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag. C'est avec un réel plaisir et une grande fierté que je reçois aujourd'hui Eurydice Dong, déléguée départementale de Reconquête en Vendée, française d'origine gabonaise, mère de 5 enfants. Elle incarne une voix libre, courageuse et particulièrement singulière dans le paysage politique français. Issue d'une famille engagée, hein, fille du journaliste et conseiller politique gabonais Pierre-Célestin Dongondo, elle a choisi pleinement et sans complexe la France comme patrie charnelle. Militante déterminée, elle a porté successivement les couleurs du Rassemblement national avant de rejoindre Reconquête, convaincue que ce mouvement incarne le mieux le combat pour une France souveraine, identitaire et fière de son histoire. Sur le terrain vendéen, elle mène un travail de terrain exigeant, dénonçant sans détour les effets de l'immigration de masse, la perte d'identité culturelle et la fragilisation de la famille traditionnelle. Donc, femme de conviction, elle n'hésite pas à affirmer haut et fort que la France lui a tout donné et qu'elle lui rend hommage en la défendant avec passion. Nous allons évoquer son parcours atypique, ses combats pour la souveraineté française, sa réalité migratoire et la réalité migratoire, hein, surtout, la question de l'assimilation, le rôle de la famille et les attaques dont vous êtes parfois victime, hein, Eurydice, en tant que patriote engagé à droite. Eurydice Dong, merci d'avoir accepté à nouveau mon invitation.
Oui, c'est normal. Je suis ravie d'être avec vous. Donc, j'attends avec impatience de commencer cette interview qui se promet riche et très intéressante du coup.
Ah non, point doute. Donc, vous êtes déléguée, comme je l'ai dit, départementale de Reconquête en Vendée. Hein, vous êtes née à Paris.
Oui, dans le 15e.
Fille de, donc, comme je l'ai dit, Pierre-Célestin Dongondo, journaliste et conseiller politique gabonais. Oui. Pourquoi avoir choisi d'être d'extrême France plutôt que de cultiver une identité d'extrême Afrique, comme vous l'avez si bien exprimé récemment?
Alors, on ne choisit pas d'être d'extrême France ou de ne pas être d'extrême Afrique, parce que l'un n'impose pas l'autre. C'est juste qu'à travers mon combat, qui n'est pas réellement un combat, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de passion, une histoire d'amour, une histoire de défendre le pays dans lequel je suis née, de défendre le pays où sont nés mes enfants et de défendre les valeurs de la France et de pouvoir continuer de léguer ce pays tel qu'on l'a connu à mes enfants. Donc, en mon sens, ce n'est pas une histoire de confronter soit d'être d'extrême France ou d'être d'extrême Afrique. Et pour moi, ce n'est pas un combat. C'est mes tripes qui parlent, en fait. C'est l'amour que j'ai pour mon pays qui parle. Et donc, voilà, ce n'est pas un combat. Je ne confronte ni l'Afrique ni la France. Je ne parle que de la France. Si je voulais parler de l'Afrique, je partirais en Afrique pour parler de l'Afrique. Mais ici, c'est la France et je ne parle que de la France. En gros, c'est ça.
Ça mérite d'être clair.
Voilà.
Vous dites souvent que la France vous a tant de tout donné et que vous lui rendez hommage en la défendant. Face à ceux qui vous reprochent vos origines, comment répondez-vous à l'idée que être patriote français quand on est d'origine africaine serait une trahison, Eurydice?
Alors, je vais commencer par le début. Je rends hommage parce que pour mon papa, feu mon père qui n'est plus, c'était un hommage pour lui, ma naissance en France. Pourquoi? Parce que pour lui, les missionnaires français sont arrivés au Gabon. Et on remarquait le petit garçon qu'il était, c'est-à-dire un petit garçon qui étudiait et qui avait très faim, qui allait à l'école pieds nus, n'était pas chaussé, il n'avait pas de quoi se payer, comme il disait, hein, sommairement, des cahiers, des stylos, tout ça. Mais ces missionnaires ont vu comment mon papa était tenace, il travaillait dur, il voulait étudier, et ils l'ont pris sous son aile. Et comme il nous a toujours dit, c'est grâce à ça qu'il n'a pas fini un alphabète. C'est grâce à ça qu'il a pu faire des études, de très grandes études, qui l'ont rendu à être le grand journaliste qu'il a été justement au Gabon. Et pour lui, pour rendre hommage à la France.
Pas que journaliste, d'ailleurs.
Oui, et pas que journaliste, parce qu'après, il a continué sa carrière, effectivement. Mais c'est ce qui a permis pour mon père de se dire, il veut rendre hommage à la France. Et il m'a toujours dit, t'es né en France, sois digne de l'héritage que je te donne aujourd'hui et prends-en soin. Et quelque part, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je rends hommage à mon père, je rends hommage à la France pour tout ce qu'ils ont donné à mon papa, qui n'a rien à voir avec la version qu'on veut nous donner que le côté colonial. Le côté de la colonisation a été forcément négative.
D'accord.
Non, elle n'a pas été forcément négative. Elle a aussi été positive. Et je veux le témoigner à travers comment mon papa m'a éduqué et donné cet héritage. Voilà un peu aussi, cette histoire de trahison n'est pas une trahison pour moi, parce que c'est une accusation absurde. Une origine, une couleur de peau n'est pas une identité de toute façon. Et ce n'est pas cette identité que je porte. Je ne porte pas l'identité d'être noire ou d'être origine de quelque chose. Pour moi, je ne veux pas porter une raison de victimisation parce que je suis heureuse de vivre. Je suis heureuse d'être française. Je suis heureuse d'être la femme que je suis grâce à la France, justement. Donc, je réponds par rapport à tout ça en disant tout simplement... ma couleur de peau n'est pas ma façon de vivre, n'est pas mon identité. Par contre, les valeurs, les compétences, mon parcours de vie, voilà, c'est ça exactement mon identité.
Et vous avez une idée, comme je l'ai dit en introduction, au Rassemblement national avant de rejoindre Reconquête et donc Éric Zemmour et Sarah Knafour. Qu'est-ce qui vous a convaincu que Reconquête était le mouvement le plus adapté à votre combat pour une France souveraine et identitaire ?
Parce que j'étais convaincue qu'avec Éric Zemmour et Sarah, en fait, je suis convaincue que ce que dit Éric Zemmour et ce que dit Sarah, leurs paroles, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils feront. Ils mettront vraiment ce qu'ils disent, en fait,
à exécution.
Ce n'est pas des paroles données en l'air parce que ils veulent donner des gages pour ne pas se dédiaboliser comme fait désormais certains partis. Et du coup, je sais qu'avec eux, nous sommes la France qui ne veut pas mourir. Nous sommes cette vraie France-là qui, encore aujourd'hui, ose dire que l'islam n'est pas compatible avec la République ni avec la France, ce que désormais dit le Rassemblement national. Et du coup, je me retrouve beaucoup plus dans le combat réel, le combat fort de se dire, avec Zemmour et Sarah, on n'a pas une parole, excusez-moi du terme, on n'a pas une parole, on n'a pas une parole en l'air. Et du coup, je préfère me battre aux côtés d'une femme comme Sarah, qui est une femme brillante, qui est une femme excellente. Mmh. Voilà, et ça me donne envie de me battre avec une femme grandiose comme Sarah, avec un homme excellent, qui est très intelligent comme Zemmour, qui a eu toujours le courage de dire les choses, qui n'a pas peur de se faire insulter pour dire les choses. Il dit les choses depuis toujours et j'admire son courage et j'admire la force de Sarah. Voilà pourquoi je me sens beaucoup mieux avec Zemmour et Sarah et plus du tout au RN en fait. Hein. Mais je ne renie pas que c'était ma première famille politique, hein, en aucun cas. Mais pour moi, dorénavant, c'est avec Reconquête que je mène le combat.
Eh bien, comme vous le savez, M. Zemmour, qui est venu il n'y a pas longtemps...
Oui.
à Radio Courtoisie. Juste une petite pause, Aurélie, un petit message pour les auditeurs.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Eurydice, donc, en tant que délégué Vendée, vous êtes au cœur du terrain. Hein. Quelle est la réalité que vous observez dans les communes vendéennes face à l'immigration et au changement de population ?
Alors, le changement, comment dire ? On va dire qu'en Vendée, nous ne sommes pas encore... comment on va dire ça ? La Vendée est encore un peu épargnée. On va dire ça, c'est miraculeux. On n'est pas encore vraiment submergé par l'immigration, tant est que, c'est vrai, ça commence. Et sur le terrain, notre combat est justement d'éviter que la Vendée bascule, comme d'autres villes, comme Nantes, Marseille, Rennes, qui a complètement basculé. Voilà, donc nous, justement, c'est pour ça qu'on se dit, mener le combat des idées, c'est justement empêcher ou d'éviter que nous puissions basculer un jour pour ne pas devenir Nantes, pour ne pas devenir Rennes. Donc justement, on est sur le terrain, pas que nous, hein, même nos militants sont sur le terrain pour faire comprendre qu'avec Reconquête, S'ils ne veulent pas que nous finissions comme Nantes, Rennes et tout, on se dit, bah, votez pour nous, travaillez avec nous pour éviter justement ce qui se passe ailleurs. Et nous sommes les mieux placés justement pour aider la Vendée à ne pas basculer comme Nantes, Rennes, Marseille, je ne sais même plus.
Comme beaucoup de grandes
villes.
Voilà,
comme beaucoup de grandes villes qui sont gérées effectivement par la gauche. Et qui, la gauche et LFI, on vient de se rendre compte à Nantes comment il vient encore d'avoir une fusillade. Parce que, évidemment, Johanna Roland mène une politique de gauche, c'est-à-dire pas de sécurité. Et pour l'instant, ce que nous constatons en Vendée, c'est qu'il y a quand même déjà, on sent que ça commence à venir. Mais le but est justement d'éviter que
ce laxisme-là.
En se battant pour que nos idées soient vraiment entendues, reconnues et qu'on puisse vraiment voter pour nous lors des prochaines élections. Voilà.
Et vous avez récemment, Élise, dénoncé avec force les restaurants clandestins africains qui prolifèrent en France. Hein.
Oui.
Je reprends vos termes. La France, et votre phrase, n'est pas un faubourg de Bamako. Pourquoi ce combat culturel vous semble-t-il prioritaire aujourd'hui ?
Alors, prioritaire, peut-être pas. Prioritaire, peut-être pas. Mais en tout cas, un restaurant africain clandestin, pourquoi aurait-il plus la légitimité d'exister que le canon français en France ? Je me pose la question. En quoi un restaurant africain clandestin représente-t-il plus la France que le canon français, qu'on veut nous faire croire que démocratiquement, ils sont dangereux, qu'ils chantent, parce qu'ils aiment la France. En quoi donc, c'est la question que je me pose, en sachant effectivement, comme je l'ai si bien dit, que la France n'est pas, la France n'est pas un faubourg de Bamako, ni d'Abidjan, ni autre chose. Donc, du coup, je m'interroge, pourquoi autoriser ce genre de restaurant clandestin, en sachant qu'aujourd'hui, il y a des restaurateurs qui doivent respecter des normes, des règles pour pouvoir ouvrir leur restaurant. Et ce genre de restaurant peut ouvrir comme ils veulent, comme bon leur semble, en revendiquant des droits qui n'ont absolument pas, de toute façon, droit. Donc, je me dis non. C'est un combat culturel aussi à mener. Voilà, c'est un combat culturel parce que ça commence par là. Ça commence par ce genre de comportement.
Oui.
Et après, ça grimpe, ça gangrène. Voilà, et ça dérive. Donc, je suis absolument contre ce genre de restaurant où je me dis, il faut tous les foutre dehors.
Très bien. Écoutez, ça mérite d'être clair. Emmanuel Macron vient encore d'annoncer des milliards, je ne vous l'apprends pas, d'euros d'aide à l'Afrique. Donc vous soutenez Éric Zemmour quand il dit que c'est un scandale au moment où les Français souffrent. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'être ingrate vis-à-vis de votre continent d'origine ?
Alors, qu'est-ce que je dis ? Il faut que je me retrouve. Qu'est-ce que je dis ? Alors, je dis tout simplement que je ne suis pas ingrate. Je suis née en France en tant que Française. Ma priorité reste évidemment la France. Je ne suis pas contre mon continent d'origine, sachez-le, vraiment pas du tout. Je suis juste avant tout pour la France. Donc, être avant tout pour la France, ce n'est pas être contre l'Afrique, c'est être avant tout pour la France. Donc, pour moi aujourd'hui, pendant que des Français dorment dans les rues, pendant que aujourd'hui les hôpitaux sont saturés, que nous sommes étranglés étranglés financièrement, qu'on n'arrive plus à mettre de l'essence. Pour aller travailler, il faut calculer. Pour pouvoir manger, il faut calculer. Pour aller en vacances, il faut calculer. En fait, pour tout exactement, moi, maman de 5 enfants, heureusement, mes 2 grands sont grands, mais j'ai encore 3 enfants à charge. Mm-hmm. Malgré que je travaille, je suis toujours obligée de compter pour pouvoir organiser une vie décente à mes enfants. Donc, l'aide massive doit revenir d'abord aux Français, et c'est seulement aux Français qui sont excessivement taxés pour aider d'autres continents et pas d'abord s'aider soi-même. C'est une aberration que je ne comprends toujours pas. Voilà. Nous n'avons pas à travailler pour devenir des clochards dans notre propre pays. Ce n'est pas normal. Donc, aider l'Afrique depuis des décennies, je ne vois aucun changement puisque en aidant l'Afrique, je ne vois pas de changement puisque les Africains veulent toujours venir ici. Ils veulent toujours prendre des risques pour venir ici. Ils prennent toujours des risques pour devenir des clandestins. Ils prennent toujours des risques pour devenir... pour faire des boulots ingrats soi-disant. Donc, en quoi cette aide-là aide finalement l'Afrique ? Moi, je constate que ça n'aide en rien, puisque l'immigration massive continue aussi venant de l'Afrique. Donc non, je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas pourquoi il y a cette aide-là qui, pour moi, nourrit les élites corrompues d'Afrique. Hein. Et donc la France continue d'être la mère nourricière de tout ce désordre, et il est temps de mettre fin à tout ce désordre en arrêtant tout simplement d'aider tous ces pays-là. Donc ce que Macron est allé faire, vraiment, j'étais en colère contre ce président qui est pour moi un collabo
donc
du désordre.
C'était de la colère.
Oui, c'était de la colère, c'était du dégoût. J'attends avec force 2027 pour que enfin ce homme soit dégagé de la France.
Si je peux me permettre, d'ailleurs, à travers vos tweets, etc., on ressent cette énorme colère que vous.
Oui, parce qu'il y a des pays comme, on peut prendre exemple sur l'Asie, il y a une certaine stabilité qui se vaut par l'éducation, par l'effort, par le courage. Et ce n'est pas en aidant tous ces pays-là où il n'y a pas d'ordre, on va dire comme ça, que ça va changer grand-chose. Donc, il faut d'abord aider les Français. Enfin, il faut d'abord aider son propre peuple. Je ne comprends pas. Macron, dès qu'il est en Afrique, dès qu'il est ailleurs, il est piqué d'une joie de vouloir toujours humilier son propre peuple pour aller engraisser d'autres parce qu'il est plus aimé ailleurs. Parce qu'ici, il est détesté. Donc, moi, non, j'en pouvais plus de toute cette mascarade. J'étais très, très, très en colère après cet homme que je ne reconnais absolument pas comme le président des Français. Parce que, tout simplement, dans son comportement, il ne nous montre pas qu'il nous aime. Donc, pour moi, un président qui ne montre pas à son peuple qu'il nous aime. Donc, moi aussi,
c'est
en
problématique.
Retour. Voilà.
Alors, comme vous l'avez rappelé, comme je l'ai rappelé également, vous êtes mère de 5 enfants et vous parlez beaucoup de redonner aux pères leur rôle d'autorité et de protection, Eurydice.
Oui.
Dans une France où la famille est fragilisée, où l'immigration importe parfois des modèles culturels très différents, quel est votre message aux familles françaises ?
Pour moi, déjà, je crois au modèle du père-mère comme pilier de la civilisation. Pour moi, il y a d'abord Dieu, après il y a le père. Le père représente pour moi l'autorité, la protection. C'est un leader, c'est un exemple papa. Donc pour moi, je dis au papa de reprendre le pouvoir au sein des foyers, déjà, d'assumer leur autorité, c'est très important, avec amour et fermeté. Hein, voilà. La France ne se sauvera pas par la France ne pourra pas se sauver par l'immigration, mais par contre, elle pourra se sauver par un réveil des familles françaises. Il est temps de remettre au cœur le sens de la famille. Et le sens de la famille, pour moi, passe par le fait qu'on doit redonner sa place essentiellement au papa. Pas que l'Afrique n'a pas un modèle de père, mais leur modèle aussi est un peu biaisé, parce que je sais que le papa est sacré. Mon père était sacré au sein de notre famille, et on a perdu ça en France. Et c'est pour ça que je me dis, la vraie résistance démographique et culturelle, c'est plus de foyers français, hein, solides, avec des pères debout, dans une France qui doit rester elle-même. C'est pour ça que je me dis, l'autorité du père doit revenir essentiellement au papa et pas à toutes ces familles déconstruites, à toutes ces histoires, des femmes qui veulent faire des enfants seules, tous ces trucs-là qui déstabilisent justement la natalité, qui déstabilisent totalement la France. Il est temps de revenir vraiment à ce qu'on a toujours connu, la vraie France, c'est-à-dire une maman, un papa. Voilà.
En parlant de famille et plus particulièrement d'enfants, rappelons aussi... chez Reconquête, parents vigilants aussi. Hein.
Oui, c'est vrai qu'à Reconquête, nous sommes les seuls à le faire. Hein. Merci d'en parler. Nous sommes les seuls à avoir parents vigilants qui vraiment jouent un rôle essentiel. Et vraiment, je suis très heureuse de faire partie de cette grande famille qui a pu mettre en place parents vigilants qui, jusqu'à aujourd'hui, nous obtenons vraiment de très, très bons résultats. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, Reconquête est le meilleur parti. Donc, n'en doutez pas et continuez de croire en nous et de vraiment se dire, nous sommes le parti qu'il faut pour la France en 2027.
L'immigration non sélectionnée et non assimilée, hein, vous avez dit craindre qu'elle importe le pire. Avec les chiffres actuels et les événements récents, pensez-vous que la France est encore capable d'intégrer ou doit-elle désormais assumer une politique de remigration assumée ?
Oui, pour moi, il faut assumer une remigration. Ce n'est pas la haine, c'est une question de survie pour sauver la cohésion et l'identité française. La France n'est pas multiculturelle, ça ne fonctionne pas, on le voit parfaitement. Donc, la France n'est pas musulmane, hein, c'est non. La France n'est pas africaine, c'est non. C'est pas compatibles. La France doit rester la France. Et c'est pour cela que je me dis, cette immigration non sélectionnée ne peut qu'apporter, de toute façon, le désordre, la haine. En plus de ça, c'est majoritairement des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'on appelle les valeurs françaises, parce qu'on ne leur inculque même pas déjà ce que c'est les valeurs françaises. Pourquoi ? Parce que la France elle-même se renie constamment de ne pas assumer son histoire, son identité. Et ce n'est pas en n'assumant pas qu'en faisant venir d'autres déjà qui nous détestent, que ça va vraiment améliorer les choses. Donc pour moi, ils doivent s'assimiler aux règles, aux lois, aux valeurs, à la religion de la France. Parce que tous ceux qui se sentent persécutés en France, je ne comprends pas pourquoi ils veulent venir en France. Si vous vous sentez persécutés parce que nos règles sont visiblement trop pour vous, bah écoutez, au lieu d'être en souffrance en France, je vous demande tout simplement de repartir. Il faut remigrer. N'attendez pas qu'on vous force à partir. Vous n'aimez pas la France, vous souffrez, ben repartez tranquillement, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Sinon, pour moi, de toute façon, c'est dehors.
Donc c'est un peu le paradoxe du pompier pyromane.
Exactement, exactement.
En tant que femme noire engagée à droite, vous subissez parfois des attaques violentes hein, de la part de ceux qui vous traitent de traîtresse. Uh-huh. J'aimerais bien vous entendre, ça sera la dernière question, il nous reste 4 minutes. Comment vivez-vous cette haine et quel message adressez-vous aux Français qui pensent comme vous, mais n'osent pas le dire, Aurélis ?
Alors, vraiment, les attaques violentes, je vais vraiment faire une parenthèse. C'est pour dire, en fait, celui qui souffre le plus de ces attaques violentes, c'est pas forcément moi, c'est mon conjoint. J'ai plus l'impression que je dois le protéger, lui, parce que c'est très dur pour lui de voir toutes les insultes que je reçois sur les réseaux sociaux. Parce que pour moi, cette haine, au final, elle ne m'atteint plus. Mm-hmm. Elle ne m'atteint pas. Parce que pour moi, mon identité, ce n'est pas d'être noire. Je ne dois rien à ces noirs, je ne dois rien à ces arabes, parce que je suis littéralement plus insultée par les noirs et par les arabes constamment qui pensent que j'appartiens à leur communauté. Alors que je veux bien faire comprendre, je vous ressens par la couleur de peau, mais je ne vous ressens pas par l'esprit ni par la pensée. Mon libre arbitre m'appartient, je suis encore libre de réfléchir. Et justement, pour moi, nos ancêtres, qui se sont battus pour être libres, qui se sont battus pour ne plus être des esclaves, c'est cette liberté qu'ils nous ont donnée à tous. Et moi, cette liberté, je l'ai prise en me disant, je rends hommage à mes ancêtres qui se sont battus pour que nous soyons tous libres. Moi, je ne vois absolument pas des champs de coton autour de moi. Je vois une nouvelle façon de vivre et je la prends pleinement, je la vis pleinement. Et pour moi, toute cette période-là est terminé. Et du coup, ceux qui veulent continuer de rester emprisonnés, enchaînés dans des histoires de colonialisme ou bien d'esclavage, ben moi je leur dis, c'est eux qui souffrent le plus et pas moi. Parce que moi, ma vie avance, je suis heureuse de vivre et je continue ma vie et je leur dis, continuez comme ça, c'est eux qui souffrent le plus et pas moi.
Donc, toutes ces attaques que l'on peut voir, effectivement, je confirme, parce que avant de vous interroger, j'ai pu voir des choses assez hallucinantes, traîtresses, etc. Ça ne vous atteint pas, c'est plutôt votre compagnon qui est atteint.
Oui, c'est lui qui est beaucoup plus atteint que moi. Qui...
Donc vous voulez laisser se fatiguer, en gros.
Ben, moi, en tout cas, c'est-à-dire que c'est comme vider la mer avec une cuillère à soupe. Ça, c'est inutile, c'est impossible à gérer. Soit mentalement, je me préoccupe d'eux, soit mentalement, je prends soin de moi. Et moi, j'ai décidé de prendre soin de moi parce qu'ils ne vont pas m'empêcher de continuer et je ne vais pas les empêcher de continuer d'écrire ce qu'ils ont envie d'écrire. J'ai déjà reçu des menaces de mort. Ils m'ont déjà dit qu'ils allaient me retrouver pour me violer. Ils ont déjà dit qu'ils allaient retrouver mes enfants pour les attaquer. J'ai tout entendu, j'ai tout reçu comme menace, violence depuis déjà de nombreuses années. On parle de mes cheveux,
Oui, ils ont vraiment que ça à faire.
Oui, ils ont que ça à faire. Ils parlent de mes cheveux, écoutez, des détails qui ne m'intéressent
absolument pas.
Donc, pour tous les gens qui ont les mêmes pensées que moi, qui n'osent pas prendre la parole ou bien se révéler, Je peux comprendre parce qu'aujourd'hui même à Reconquête, beaucoup n'osent pas affirmer qu'ils sont de Reconquête parce que la peur de perdre leur travail, la peur de perdre amis, des connaissances, enfin tout. Je comprends tout ça, mais je vous dis, il n'y a pas mieux d'être aligné avec soi-même et d'avoir le courage de défendre ses idées. Donc, ayez le courage d'être vous-même, ayez le courage de vouloir assumer ce que vous êtes pour la France et surtout pour vous-même et pour vos enfants. Donc, soyez libre, en fait.
Eurydice, donc, malheureusement, nous arrivons au terme, ça passe vite, hein, de cet entretien. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Radio Courtoisie.
Merci de m'avoir invité.
Votre parcours, donc votre franchise, votre attachement viscéral à la France et votre combat sans concession, on l'a bien compris, pour sa souveraineté, son identité et sa civilisation nous ont particulièrement touchés, clairement, et éclairés. Donc, maire de 5 enfants, délégué départemental de Reconquête en Vendée, vous incarnez cette France qui refuse de se renier et qui choisit de se défendre avec courage. Donc merci pour votre témoignage sincère, pour votre lucidité sur les réalités du terrain, sur l'immigration, la famille et l'avenir de notre pays. Hein, votre voix porte et elle est indispensable.
Merci et je vais continuer le combat. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux et d'écouter Radio Courtoisie.
Effectivement, chers auditeurs, vous pouvez suivre donc Eurydice donc sur les réseaux sociaux et bien sûr soutenir l'action de Reconquête, d'Éric Zemmour et de Sarah Knafou.
Pour 2027.
Et surtout, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. À mercredi prochain et bonne semaine.